entre certains discours puis la réalité qui est dans le rapport de la commissaire puis évidemment ce que les gens de terrain vivent. Donc, des choses qui brisent. Écoute, à l'urgence, c'est presque une risée, là, mais tu sais, j'essaie d'examiner des oreilles. Oh, l'otoscope ne marche plus.
Voyons.
La civière qui baisse puis qui descend, la table d'examen, oh, elle ne fonctionne pas. C'est comme ça. Puis ma salle d'urgence ne fait pas exception. C'est la règle un peu partout. C'est qu'on a développé quand même un gros parc d'hôpitaux au Québec. Tu sais, ça, à la base, c'était positif, là. Je veux dire, on a beaucoup d'hôpitaux dans les milieux ruraux si on se compare avec d'autres provinces canadiennes.
Ils sont obligés d'avoir des plus longs déplacements pour être capables de se rendre dans un centre.
Exact. Sauf que là, après ça, c'est qu'on a fait comme beaucoup de choses. Dans les années 70, go, 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 on développe. Puis la partie, genre, mais après...
Faut les entretenir, tu sais.
Ouais. C'est la même affaire qu'avec nos routes puis avec nos viaducs.
C'est avec les écoles, probablement qu'il y aurait une commissaire à l'éducation. Elle pourrait faire à peu près le même constat. Fait que, puis c'est ça qui est dur. C'est souvent, je comprends qu'on ne veut pas être toujours dans le négativisme, mais d'être dans le positivisme quand, dans le quotidien, on a besoin d'équipements, on ne les a pas. Quand on voit des images au téléjournal de murs qui coulent, de tuyauteries qui pètent ou de choses comme ça, on est comme, mais voyons, ça ne marche pas le discours. Il y a quoi qui ne marche pas?
Mais on le voit aussi, nous autres. Je veux dire, à partir du moment où on les fréquente, les urgences, où on est patient dans un hôpital, on voit la même chose que vous autres, là. Je veux dire, le narratif qu'on se fait présenter en tant que client ou en tant qu'usager, on ne l'achète pas plus, nous autres, là.
Tout à fait. Puis, ouais. Moi, je suis une grande fervente de parfine. On a pas ce qu'il faut dans nos hôpitaux. Essayons de sortir les soins des hôpitaux. Je comprends qu'une chirurgie avec un robot ne se fera pas à domicile, mais il y a de plus en plus de pays européens qui hospitalisent à domicile, qui font des... Mais ça aussi, on est en retard. Tu sais, c'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on est un petit peu toujours en train de courir après notre queue. Mais bon, je suis une éternelle optimiste. Je présume qu'on va... Il y a quand même des projets qui fonctionnent. Il y a quand même des hôpitaux qui sont capables d'innover puis de faire des choses quand même assez exceptionnelles.
C'est quoi la dernière belle affaire qu'on a faite dans le domaine de la santé, mettons, avec notre système?
Bien, écoute, il y a quand même, je regarde nos grands hôpitaux universitaires, le CHUM, le CUSUM, le CHU de Québec aussi, on a quand même maintenant de plus en plus de robots qui font des chirurgies, qui font des choses quand même vraiment poussées, que ce soit des, tu sais, je veux dire, on a vu à Montréal des greffes de figure. Au niveau du cancer, on est quand même vraiment bon dans le développement de plusieurs traitements. Fait qu'il y a des choses comme ça qui sont très de pointe, qui sont peut-être pas encore pour le commun des mortels, puis tant mieux, on veut pas que les gens soient trop malades. Fait que ça, c'est quand même bien. On a aussi le Jewish qui est extrêmement performant, qui fait vraiment beaucoup d'innovations, eux, justement, en hospitalisation à domicile. Ils ont des salles maintenant remplies d'écrans puis d'infirmières qui font des suivis à distance avec d'autres infirmières.
Ben voyons!
Ça, c'est vraiment bien, bien, bien. C'est bien fait, c'est sécuritaire. Il y a les médecins qui participent. Ça, c'est l'autre chose aussi, c'est que tout le monde rame dans le même sens pour les patients. J'avais, entre autres, eu des rencontres où ils ont des Google Glass, là, fait qu'ils ont des lunettes, fait que l'infirmière a les lunettes, le médecin peut à ce moment-là voir ce qui se passe avec le patient, les suivis de plaies, par exemple. Fait que, ouais, non, il y a des choses qui se passent, mais ce qu'on a de la difficulté après ça, c'est de faire ça à grande échelle. Mm-hmm. Puis de dire, OK, parfait, ça se fait au Jewish, comment on le fait pour que le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay, puis la Côte-Nord aient accès aussi? Ouais. C'est là où on a un petit peu de misère.
Élise, d'ailleurs, tu as participé toi-même à quelque chose concernant la consommation des soins de santé virtuels.
Oui.
Ça, tu nous en as parlé souvent là, comme étant une voie d'avenir qu'on devrait explorer davantage. Là.
Oui, c'est ça. L'Université Laval, avec son Académie de transformation numérique, à chaque printemps, sort une enquête de consommation sur des tendances. Puis là, cette année, ça tombait sur la santé. Ils m'ont demandé, est-ce que tu peux nous aider à analyser les résultats? J'ai dit, certainement, ça va me faire plaisir. Puis en fait, ça confirme un peu ce qu'on ressentait sur le terrain. Puis je trouvais ça drôle parce que j'étais dans la voiture quand tu parlais que tu avais demandé à ChatGPT des conseils médicaux. Puis c'est exactement, entre autres, une des tendances lourdes de l'enquête.
Est-ce que quelqu'un t'avait déjà posé la même question qu'Audrey a posé à ChatGPT sur le moment où elle va aux toilettes?
Non, mais il n'y a pas de mauvaise question. Je l'ai toujours dit.
Est-ce qu'on était une coupe à se la poser, bon, mais on ne sait pas.
Pour les gens qui n'étaient pas là, la question qu'Audrey a posée à ChatGPT, c'est est-ce que je peux faire mal à mon enfant quand je force pour faire caca?
Mais c'est correct.
Il n'y a pas de mauvaise question.
Il n'y a pas de mauvaise question.
Merci, Élise.
Mais non, mais tu sais, je veux dire, c'est toute proche, cette affaire-là, quand on y pense.
Bien, pour vrai, oui. Puis là, pas à ce stade-ci, c'est sûr. Mais tu sais, imagine, moi, je me dis, imagine que tu es constipé toute ta grossesse. Mané, il est gros, lui, ici, là.
Mané, il manque de place dans tout
ben,
ça.
Bien, je sais pas, là.
Mané, la nature est bien faite.
Mané, il va en sortir de la marde, là.
tout à l'accouchement.
Ah, génial.
C'est là que la proximité avec ton chum, ça va changer.
Ça, tu vois, ça, c'est les moments que je suis pas prête encore à assumer et à entendre.
Ça, j'avoue, quand j'étais en entraînement, puis les premiers accouchements où j'ai vu ça, j'ai fait « Ah ben, dis
tout
donc! »
Tout sort!
Ben oui, exact. T'es un peu surprise.
Oui, puis on n'en parle pas assez.
Personne n'en parle.
Non, non.
Fait que moi, je me faisais un plaisir de l'affirmer haut et fort à tous les suivis de grossesse par la suite.
Après, la théorie du Big Bang, il y a la théorie du Big Splash.
C'est ça. Ouais.
Mais si on revient à l'enquête,
oui,
mettons...
Oui, oui, oui.
Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, moi, comme professionnel de la santé, ce qui me dérange, entre autres, par rapport au logiciel de ChatGPT, Gemini, de ce monde, c'est que ça n'a pas été entraîné pour faire des conseils de santé. Puis c'est là où, puis même, j'ai vu une étude apparaître, entre autres, sur OpenAI qui a fait une tentative de faire, entre autres, une infirmière d'intelligence artificielle de triage à l'urgence. Mmh. 50 % du temps, elle se trompait et c'était dangereux, c'est-à-dire qu'elle ne ciblait pas des choses qui étaient, entre autres, mortelles. Ce qui fait qu'en théorie, si on l'avait utilisé à l'urgence, ben il y aurait des gens qui seraient morts.
Elle n'est pas prête.
Elle n'était pas prête, la technologie, tu comprends? Fait que, tu sais, des petites choses de base, j'ai pas de problème, mais quand on est dans vraiment le questionnement, puis là, le problème, entre autres, de ChatGPT, puis on l'a vu parce que ça a fait les manchettes aux États-Unis, c'est que si, mettons, vous êtes vraiment intelligent et borné, vous pouvez contourner les filtres de ChatGPT pour arriver à avoir des réponses à vos questions. Fait que ça, tu sais, puis moi, comme responsable dans le système de la santé, je me dis juste, l'enquête, ce qu'elle nous dit, 50 % des 18-34 ans l'utilisent. Ouais. 50 % des femmes vont sur les réseaux sociaux pour avoir des conseils de santé. Puis, mettons, oublie les femmes, tout le monde qui consomme des trucs de santé sur les réseaux sociaux, 7 personnes sur 10 vont changer soit leur comportement ou, mettons, qu'il y avait une anxiété ou quelque
chose. En fonction de la réponse.
En fonction de la réponse sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Mais les réseaux sociaux, c'est pas fiable, ça non plus. Puis là, je suis comme...
Mais je pense qu'on se trouve perdu parce qu'on nous dit tellement « Va pas à l'urgence pour rien ». Fait que là, quand on sait pas trop quoi faire à un certain point puis que t'attends 45 minutes avec le 811 au téléphone, ben là, tu finis par te dire « OK, me demander à ChatGPT, j'imagine que l'ensemble des réponses d'Internet vont me trouver quelque chose de pas pire, tu sais. »
C'est ça. Mais t'as tout à fait vrai. Fait que les gens sont un peu dans un no man's land. Je sais que là, j'ai l'air de juger quand je dis c'est pas fiable et tout ça, mais c'est juste que moi, comme système de santé avec un grand S, je me dis, ben c'est qu'on répond pas aux besoins, puis ça revient avec ce que la commissaire disait. Mm. Les gens considèrent qu'ils ont pas accès. On veut pas aller déranger à l'urgence.
On se le fait dire.
Fait que là, on se tourne vers quoi? Vers ce qu'on a au bout de notre main.
Mais on devrait avoir une intelligence artificielle marquée Santé Québec dessus où elle pourrait poser ses questions de caca puis de forcer puis de faire mal au bébé et ainsi que toutes les autres. Là.
Plus sérieusement que ça, on a un collègue de travail qui était allé passer des tests sanguins puis ils l'ont jamais rappelé pour lui donner les résultats. Fait qu'il a attendu le nombre de mois pour que tu les aies sur le carnet Santé Québec en ligne. Puis ça disait résultats anormaux. Fait que qu'est-ce que tu penses qu'il a fait? Il est allé fouiller sur Internet puis il avait dit risque de cancer. C'est fou, là. Parce que personne te donne de suivi alors que tu as suivi le chemin parfait. Tu te retrouves dans cette espèce de position-là de dire « Wow, faut-tu que je m'inquiète pour de vrai? » Puis pourquoi personne ne m'a rappelé, tu sais?
Puis encore une fois, c'est pas de la rocket science, comme on dit en bon anglais. Là. J'ai vu, entre autres, j'avais parlé avec des gens du Fraser Institute en Colombie-Britannique qui ont un chatbot maintenant sur leur site hospitalier. Ça dit « Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? » Puis c'est comme le 811, mais en chatbot. Fait que c'est fiable.
Il oriente.
Il va vous trouver une ressource si vous cherchez, entre autres. C'est vraiment bien fait. Fait que ça existe. C'est juste une question de le rendre, encore une fois, accessible. Mmh, ouais. Mais moi, je suis vraiment curieuse de voir, entre autres, dans l'enquête, une des choses qui m'a quand même, que j'étais heureuse, une personne sur deux qui répondait au sondage, puis il y avait plus que 1000 personnes, disait qu'il y avait une application intelligente pour leur santé, fait que soit une montre,
les
le
Google
téléphone,
Health, ouais.
Exactement. Puis que la grande majorité des gens trouvaient que ça les aidait dans leurs habitudes de vie. Fait que, tu sais, c'est quand même des choses positives. Là. On va pas juste être négatif. Par contre, il y avait un faible pourcentage que ça... Ils disaient que ça les rendait plus malades. Fait que là, c'est comme, c'est-tu de l'anxiété de performance? C'est quoi exactement? Fait que c'est quand même riche. Puis j'espère que l'Université Laval va vouloir la refaire dans 2 ans parce que je pense que ça va être des tendances qui vont être à la hausse.
Puis ça peut devenir problématique. Hein? On parle d'Internet, des réseaux sociaux, puis tout ça. Je lisais sur l'Ebola du côté de l'Afrique où il y a des vidéos qui deviennent viraux où tu as des spécialistes de la santé qui disent que l'Ebola n'existe pas. Tu sais, ce qu'on a vu pendant la pandémie, mais vraiment concentré dans un pays où il y a vraiment une crise majeure, des gens qui meurent et ainsi de suite. Puis il y a des vidéos qui sont vues par des centaines de milliers d'utilisateurs où on dit c'est une crise inventée par le gouvernement puis l'Ebola, ça n'a jamais existé, puis ainsi de suite. cet outil-là de propagande, faut réussir à créer un canal à côté où tu peux avoir des vraies réponses quand tu te poses des questions, parce que se poser des questions, c'est normal. Puis pas vouloir aller embourber l'urgence, c'est normal aussi, tu sais.
Exactement.
C'est des comportements normaux qu'on a ici, là.
Puis la responsabilité des entreprises de Facebook et autres de ce monde, que leurs algorithmes aillent chercher la vraie info et non pas la propagande, parce que ça aussi, c'est un enjeu. Le problème des algorithmes des réseaux sociaux, c'est que si tu commences à consommer le chaman de je sais pas quoi qui dit qu'Ebola n'existe pas, mais là, tu vas continuer à voir des vidéos là-dessus, c'est alors que la vraie information, tu ne l'auras jamais parce que ton algorithme ne te la donnera pas. Fait que cette responsabilité-là, présentement, les grandes compagnies de ce monde, ils s'en déchargent pas mal.
Oui, beaucoup.
Mais outre la... Tu sais, parce que des médecins québécois qui donnent de la très bonne info, il y en a, là, il y en a plein sur les réseaux sociaux. Mais après ça, si tu n'y as pas accès parce que toi, ton algorithme il est plus sur le fait que les vaccins sont dangereux, etc., ça crée aussi le problème.
Tu ne pourras jamais confronter les informations.
Nouveau traitement prometteur pour le cancer du pancréas.
Ça, quand même, pancréas, c'est avec le cancer des ovaires, le cancer du cerveau, c'est dans les cancers les plus mortels. Le taux de survie à 5 ans est moins de 5 %.
C'est Claude Béchard qui était décédé d'un cancer du pancréas.
Exactement, puis en bas de 50 ans, là, puis tu sais, je veux dire...
C'est un gars qui était en santé, qui avait l'air d'avoir de saines habitudes de vie.
Exact. C'est qu'il n'y a pas de dépistage, contrairement au cancer du côlon, au cancer du sein. Malheureusement, c'est qu'à un moment donné, vous commencez à être faible, à moins bien manger. Je suis moins faim. Tant mieux, je ne veux pas prendre de poids. Oups, finalement, le cancer est métastatique. Puis en fait, c'est une de nos bonnes amies, qui est Dr Julie Allais, qui est une chirurgienne du côté de Toronto, qui a publié... En fait, elle a mis sur ses réseaux sociaux cette étude-là. Je l'ai fait tabarouette, je vais aller voir c'est quoi. Puis c'est une 31 mai, New England Journal, donc une des revues les plus connues dans le monde au niveau médical. Puis en fait, c'est vraiment l'avenir au niveau du cancer, c'est tout ce qui est de l'immunothérapie.
Okay.
Écoute, ça doublait la survie. Puis là, tu vas me dire, on passait de 6 mois à 12 mois, mais c'est quand même pas rien. En cancer du pancréas, on n'a jamais vu ça, là. Un traitement qui est aussi efficace.
Bien, dans cette situation-là, tu me donnes 6 mois de plus, moi, toutes les prendre.
Exactement. Les gens qui avaient la thérapie avaient autant d'effets secondaires que si. Puis c'était... l'immunothérapie comparée à la chimiothérapie qu'on donne actuellement. Là. Fait que, on comparait le traitement standard. Écoute, moi, je n'avais jamais vu des résultats aussi prometteurs pour un traitement du pancréas. Fait que je voulais comme donner la petite nouvelle du jour côté cancer. Moi, ça m'a encouragée. Mais ça aussi, ça va être un autre débat de société parce que les traitements d'immunothérapie coûtent une fortune.
Ouais.
C'est des centaines de milliers de dollars par traitement. Fait qu'il va falloir, à un moment donné, se poser comme question à qui on les donne, jusqu'où on va, etc., etc. Mais bref, ces traitements-là... Moi, je l'ai vu chez plusieurs patients, ont permis, dans d'autres cancers, entre autres, de guérir des cancers ou justement de permettre plusieurs belles années avec une qualité de vie acceptable. Okay. Puis, tu sais, quand tu as 45 ans, puis tu peux voir tes enfants vieillir, ça fait une méchante différence.
Ben oui.
Fait que c'est quand même dans les choses qui avancent à vitesse grand V côté la science médicale, c'est l'immunothérapie dans le cancer. Cancer du pancréas, nouveau traitement à suivre.
Nice. Là, on est en période de chaleur, puis je lisais sur la fatigue de juin ce matin, particulièrement chez les enfants, puis c'est pas nécessairement que ça va te rendre amorphe, là, ça va te rendre encore plus énergique, puis ça va te rendre même des fois agressif, puis on dirait que même les grands, nous autres, là, quand ça fait 4-5 jours en ligne, qu'il y a de la chaleur excessive, on vient mou un peu, on vient amorphe un peu. On le sait, là, il y aura moins une grande chaleur cet été de ce qu'on avait annoncé.
Il va en avoir, mais sur de plus courtes périodes, puis plus de température dans les moyennes fraîches.
Mais la tendance est à l'activité physique pour bien du monde. Peut-être doser vos transports quand il y a des grandes chaleurs.
Oui, puis tu sais, on fait cette chronique-là à chaque début d'été, mais c'est parce que nous, à l'urgence, on voit l'augmentation de la consultation à l'urgence pour des problèmes reliés à la chaleur à chaque première canicule-ish qui est cette semaine. J'étais dans le Manitoba les deux dernières semaines où à Winnipeg, il faisait 40 degrés à tous les jours. C'était extrêmement chaud et humide. Puis en fait, c'est premièrement, si vous êtes en bonne santé, tant mieux. Vous la tolérez probablement bien, la chaleur. Mais je veux vous sensibiliser parce que souvent, c'est nos personnes âgées, nos personnes fragiles, c'est à eux qu'il faut penser. Puis c'est souvent eux qui vont venir consulter à l'urgence parce qu'entre autres, puis c'est là où le pharmacien est votre meilleur ami. Il y avait entre autres, justement, je regardais des vrais médecins sur les réseaux sociaux qui parlaient entre autres des traitements pour le TDAH. Mais la plupart des psychostimulants pour le TDAH, sans vous en rendre compte, augmentent légèrement la température de votre corps. Fait qu'avec la température externe, mettons, puis là, c'est les sorties dans les parcs pour les écoles, puis tout ça, ça peut avoir un impact entre autres chez les enfants. Ça peut avoir un impact chez justement les gens qui prennent de la médication pour l'hypertension, qui jouent sur les reins. Vous allez dehors, vous vous hydratez moins, ça peut avoir un impact. Vous allez perdre connaissance, puis là, vous pouvez vous blessé. Ben, oui. Moi, j'ai vu des gens se blesser quand même gravement dans les derniers jours à cause de perte de conscience due à la chaleur. Fait que c'est vraiment juste, encore une fois, c'est pas de faire la morale, c'est pas de pas aller dehors puis pas de pratiquer vos activités. C'est juste de faire attention puis de poser les questions avant. Je pense que c'est vraiment une question de prévention. Puis pensez même à des choses, des fois, qu'on ne penserait pas, justement, comme les psychostimulants. Ça fait partie des choses auxquelles on ne pense pas quand c'est le temps qui fait ben, chaud. Oui. C'est juste d'aller vérifier avec votre pharmacien. Je dois-tu faire quelque chose de différent? Est-ce qu'il doit s'hydrater plus, mon enfant? Est-ce que je dis au prof qu'il faut qu'il évite la chaleur? Tu sais, comment je gère ça? Puis votre pharmacien va être votre meilleur ami.
Les boissons énergisantes interdites aux plus jeunes, c'était la chose à faire?
Complètement. À chaque fois qu'on a un projet de loi qui change les habitudes de consommation, c'est drôle, hein? il y a pas longtemps, il y avait des... sur les réseaux sociaux encore, il y avait des vidéos sur quand on a retiré la cigarette des terrains.
Ça fait 20 ans, il y a quelques
années.
Ça
vient de faire 20
drôle,
ans. Puis on voyait on voyait les gens dans les entrevues tellement comme dérangés de voir devoir changer.
Je viendrai plus au restaurant. Qu'est-ce que je vais faire? On va se trouver des trucs pour fumer en cachette.
Qu'est-ce que je vais faire après avoir mangé?
C'est ça.
Ça n'a pas de bon sens. Ils vont finir par changer d'idée puis vont ajuster ça, cette loi-là.
Puis ce qui était cute dans les reportages, c'était de voir après, mais vous, est-ce que vous allez arrêter de fumer à cause de ça? Puis il y en a plusieurs qui répondaient oui. Puis j'étais comme, ben c'est exactement le but de la loi. Là. Donc, bravo.
Et en chiffres, ça a fonctionné.
Donc, c'est un peu la même chose avec les boissons énergisantes. Puis ça, s'il y a une chose que je remarque, c'est dans nos jeunes, entre autres, puis ça inclut les jeunes adultes, même si la loi ne les couvrira pas, c'est l'espèce de pensée magique que ce n'est pas dangereux, ces boissons-là. Puis oui, il y a eu des décès reliés, encore une fois, avec la médication, mais moi, ce que je vois, c'est des gens qui s'intoxiquent avec ça, qui ont des effets. Écoute, il y a même des cardiologues qui pourraient dire qu'ils ont des effets sur le cœur. Ils ont 22 ans, puis ils ont des maladies cardiaques à cause qu'ils consomment trop de boissons énergisantes. Fait que moi, oui, c'était la bonne chose à faire, sincèrement. Puis tant mieux si on peut sensibiliser les jeunes, puis ça fait que ça évite qu'ils vont arrêter, qu'ils n'en consommeront pas rendu jeune adulte.
Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients de l'étendue des dommages, puis à quel point c'est banalisé par nos jeunes présentement.
Tu dis par les jeunes, mais par tout le monde. Est-ce qu'on informe assez? Est-ce qu'il devrait y avoir des campagnes, justement, pour dire, hey, voici. Tu sais, c'est quoi le processus d'une boisson énergisante sur votre corps? Puis voici pourquoi trop en prendre, ça finit par avoir un effet. Juste pour qu'on le sache.
Je pense que oui.
Je pense qu'on le banalise tous.
C'est le bout où vous êtes des experts en communication et pas moi. Tu sais, je ne sais pas comment on rejoint maintenant les jeunes d'aujourd'hui. Parce que j'avoue que je vois
pas de patrouille.
Non, mais les jeunes, il y a des gars de 30 ans qui se tapent deux monsters avant d'aller jouer une game de décoration.
Oui, mais eux autres sont perdus. Et platement parlant, c'est comme la première génération de fumeurs, Véro.
Pas nécessairement.
Je un peu quand même. Non?
Non, vraiment pas. Je pense que c'est un trip des fois. T'as des amis qui consomment ça. Tu vas avoir le réflexe de prendre ça au lieu d'un café en disant que c'est la même affaire. Et pourtant, moi, j'ai l'impression que c'est juste un petit manque d'éducation.
Parce qu'on sait pas.
Parce qu'on se fait dire, les jeunes se font dire, c'est dangereux, mélange pas ça à l'alcool, fais attention. Mais il n'y a pas vraiment du pourquoi. Fait qu'effectivement, le processus de comment ça t'affecte, j'ai l'impression que ça pourrait peut-être faire une différence, du moins en vieillissant. Là. Pas à 15-16 ans, j'ai l'impression que malheureusement, les jeunes qui en consomment se sentent un peu invincibles.
Si on s'est conscientisé sur la quantité d'alcool à ingérer. On le voit, la quantité diminue avec le temps. On l'apprécie encore. Sauf que maintenant, on n'est plus au fait des effets à court, moyen puis long terme. Fait qu'éduquer le monde, c'est payant à un moment donné.
Tu sais, les gens sont intelligents. Moi, j'ai toujours... Puis c'est pour ça que je fais des chroniques avec vous depuis toutes ces années. C'est que je me dis, si les gens comprennent pourquoi puis font comme « Ah, c'est à cause de ça », bien souvent, c'est plus facile après ça de dire « OK, je vais la changer, ma consommation. La taurine, la caféine, ça a tel effet sur mon cœur, etc., etc. » Un Monster, ça équivaut à 6 cafés. Je prendrais-tu 6 cafés aujourd'hui? Non. Ben, je vais donc pas prendre de Monster. T'sais. Puis là, je m'excuse, je nomme une compagnie. Là, ça peut être n'importe quelle compagnie. Fait que oui, je pense que... Puis c'est là où on fait des vidéos YouTube. T'sais, là, je sais plus comment on faut rejoindre cette crowd-là. Ouais. Mais clairement, je pense que... J'ai des ados maintenant, puis quand je leur explique, ils sont comme, ah ben oui, on prendra pas ça, maman. Puis quand mon frère en prenait, puis j'étais comme... Mon frère est ingénieur, il est bien brillant. J'étais comme, arrête de prendre ça, c'est vraiment pas bon pour toi. Ben, il a arrêté. Fait que, tu sais, je pense que la sensibilisation, elle a encore sa place. Effectivement, mais la loi, définitivement, à 16 ans et moins, le lobe frontal, il n'est pas encore développé. Hein. Fait que ça vaut la peine de mettre des mécanismes en place pour essayer d'éviter qu'il fasse moins de folie.
Élise, merci beaucoup. Welcome back.
Hey,
tu reviens quand tu veux.
on va parler de bébites la prochaine fois, puis toutes les maladies transmissibles.
Je me suis
fait
bouffer par les moustiques cette semaine.
C'est l'enfer cette semaine, hein? Oui,
là,
je sais.
Comme, je traîne mon petit gel de cortisone.
Oui.
On se fait bouffer par les moustiques, puis avez-vous vu, nos maisons se font bouffer par les fourmis.
Ouais.
C'est le bordel.
Ils vont dominer le monde, les insectes.
T'allais dire qu'on allait parler de bébites le prochain coup, puis j'imagine qu'on va parler de bébé à un moment donné aussi. Là.
Oui.
C'était ma dernière de la journée, Audrey, merci beaucoup. Élise Berger-Pelletier, qui est urgentologue. Qui fait partie de la belle grande famille de Gravel dans le retour. Courte pause, on revient.
Gravel dans le retour. Boulevard 100.